Est-ce une tentative de diversion ? Ça y ressemble en tout cas, alors que le pouvoir iranien est toujours confronté à d'importantes manifestations. Le site de la chaîne arabophone Al-Alam de la télévision officielle iranienne a donc diffusé ce jeudi ce qu'elle présente comme des aveux d'espionnage de deux Français arrêtés au mois de mai en Iran, Nathanaël Charbonnier.
C'est une vidéo qui dérange car elle est montée comme un documentaire un peu tape à l'œil, sur une musique angoissante, avec un mélange d'interviews et d'images surprenantes, comme l'arrivée des deux Français à leur hôtel avant leur arrestation. On y voit dans cette vidéo les deux syndicalistes assis sur des chaises, témoigner très calmement. Cécile Collère parle en français et raconte être un agent des renseignements opérationnels à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Elle explique avoir apporté avec elle de l'argent censé financer les actions de grève et les manifestations en Iran. Son compagnon Jacques Paris s'enchaîne alors sur le fait que l'objectif de la DGSE était de faire pression sur le gouvernement iranien. Une mise en scène glaçante qui tend à faire penser que les deux syndicalistes n'étaient pas par hasard en Iran à Pâques dernier et surtout qu'ils n'étaient pas des touristes.
Alors, diffusion de la vidéo donc des deux Français sur la télévision iranienne et réaction très vive de la France.
Côté réaction, les termes utilisés sont assez rares dans la bouche de la diplomatie française. Tout d'abord, le Quai d'Orsay parle d'otage d'État, demande à nouveau la libération immédiate de Cécile Collère et de Jacques Paris, mais surtout juge que la mise en scène de leurs prétendus aveux est indigne, révoltante, inacceptable et contraire au droit international. Et d'ajouter que cette mascarade révèle le mépris de la dignité humaine qui caractérise les autorités iraniennes. Le Quai d'Orsay qui tient responsable l'Iran du sort et du traitement qui sera fait aux deux syndicalistes ainsi qu'aux autres otages retenus par Téhéran. On pense à Fariba Adelra, la chercheuse, toujours en prison, et à Benjamin Brière qui a été condamné en janvier dernier par Téhéran à 8 ans de prison pour espionnage, pour avoir en mai 2020 pris des photos de zones soi-disant interdites avec un drone. Benjamin Brière, lui aussi touriste au moment des faits.
Et Nathanaël, comment peut-on expliquer la diffusion de ces images aujourd'hui ?
C'est plus qu'évident. La diffusion de ces soi-disant aveux ne tombe pas par hasard. Depuis le début de la contestation en Iran, c'est-à-dire il y a 3 semaines, le régime des Mollahs tente d'expliquer que les manifestations sont orchestrées depuis l'étranger. L'Iran a accusé à plusieurs reprises des forces extérieures d'attiser les protestations et fait savoir la semaine dernière que 9 ressortissants étrangers, notamment de France, Allemagne, Italie, Pologne et des Pays-Bas, avaient été arrêtés. Cette diffusion des images des deux Français intervient dans ce contexte. Nos deux compatriotes emprisonnés sont devenus depuis jeudi des otages politiques d'une crise qui les dépasse largement. L'Iran en interne veut justifier sa répression par une sorte de complot international. Mais l'Iran veut aussi adresser un message à l'Occident en rappelant, si c'était nécessaire, que le pays dispose de moyens de pression.
Nathanaël Charbonnier. Bonsoir David Rigoulet-Rose.
Bonsoir.
Chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et je rappelle votre dernier livre, La République Islamique d'Iran en crise systémique, paru chez L'Harmattan. Votre sentiment d'abord à vous sur cette histoire d'espionnage ?
Oui, ben c'est pas forcément surprenant dans le contexte actuel. Ce qu'on peut noter, c'est la coïncidence entre les personnes qui sont incriminées de manière ubuesque et puis le fait que les manifestations aujourd'hui touchent de plus en plus en fait les lycées, les collèges. Or, il se trouve que les deux personnes, Cécile Collère et Jacques Paris, sont effectivement ont des responsabilités en France avec les syndicats d'enseignants et on les accuse. En tout cas, les autorités les accusent d'avoir pris des contacts en mai dernier, puisqu'ils avaient un visa de touriste le 28 avril. En mai dernier, quand ils ont été arrêtés, avec des conseils de coordination des associations d'enseignants iraniens et des principaux syndicats enseignants iraniens. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait des grèves récurrentes des enseignants pour une revalorisation des salaires et les retraites. Et notamment, le 1er mai, il y avait eu une grande manifestation qui avait été réprimée. Mais donc, ce n'est pas forcément un hasard si ce sont ces deux personnes qui sont mises aujourd'hui en avant, alors même que le mouvement déborde justement sur, on va dire, le public scolaire.
La population iranienne, selon vous, est-elle dupe ?
Non, les Iraniens ne sont pas dupes, évidemment, mais ça fait partie des éléments de langage qui permettent justement aux autorités, qui sont un peu dépassées par ce qui se passe, il faut le reconnaître, ils ne s'attendaient pas à une telle ampleur. Ça permet de valider pour eux la thèse complotiste hein, sur le fait que bah, finalement les manifestations l'ampleur du mouvement seraient imputables à une ingérence étrangère. Et évidemment, dans la thèse complotiste, il y a immédiatement la suspicion d'espionnage d'éléments étrangers. Et c'est pas un hasard si plusieurs étrangers, pas seulement des Français, se sont retrouvés arrêtés dans le cadre de ce contexte.
Alors, est-ce que le pouvoir, selon vous, est vraiment en difficulté avec ces manifestations qui se poursuivent? Certaines ONG évoquent des chiffres entre 80 et 150 morts hein, avec la répression. Est-ce que le pouvoir est mis en difficulté avec ces manifestations qui se poursuivent ?
Ah, c'est incontestable, tout simplement parce que ces manifestations ne ressemblent pas à ce qu'il y a eu déjà précédemment. Il y a de manière récurrente en Iran des mouvements de contestation, voire d'émeutes. On se rappelle en 2010, fin 2017, 2018 et puis à nouveau 2019, mais c'était essentiellement pour des raisons à caractère socio-économique. La cherté de la vie, la hausse du prix du carburant. Là, on touche à quelque chose de différent. Qui est trans-classe sociale, qui est même transgénérationnelle, donc il y a une espèce de... C'est comme si la cocotte minute était en train d'exploser, et de ce point de vue-là, les autorités sont un peu démunies, parce qu'elles ont un réflexe pavlovien qui est la répression, mais en même temps, elles se sentent un peu dépassées par l'ampleur, et vraisemblablement, ça va accentuer cette répression de manière sanglante. Les chiffres sont probablement sous-évalués, mais il y a effectivement une grande inquiétude du régime.
Jusqu'où ça peut aller, selon vous ? Ce sera ma dernière question.
Bah, y a un point d'interrogation. On peut se demander si ça ne constitue pas un point de bascule potentiel pour déstabiliser de manière effective le régime en place. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne cédera pas, parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas d'alternative pour lui. Il ne peut pas transiger, il est irréformable. Et donc, c'est effectivement la porte ouverte à une répression accrue, ce qui est très inquiétant.
C'est en effet très inquiétant. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rouge, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et votre livre, donc, La République islamique d'Iran en crise systémique, qui vient de paraître chez L'Harmattan.